Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 et nous revoilà en direct. Donc il y a eu le Covid, ça a duré un moment et puis l'émission passait avant à 9h du matin. Et dorénavant, la vie est un roman, on va passer à 11h du matin et c'est une très bonne nouvelle. Voilà, nous sommes dans le studio et je suis dans le studio avec Frédéric Gournet qui vient de sortir un livre tout frais qui s'appelle « Métaphysique ». Du rock chez Irrémissible Édition et nous allons parler de ça. Et en fin d'émission, nous aurons un petit sujet sur une exposition qui a lieu chez Harcourt, je ne sais pas comment on dit, dans le 17e en ce moment ou dans le 16e. Une exposition d'Arnaud Baumann, photographe très connu, qui a photographié le Palace, les grandes années du Palace, tout le délire avec les trans et tout ça. Donc, le sujet vous sera passé en fin d'émission. Salut Frédéric.
Salut Yves.
Et donc, tu étais déjà venu parler de notre état de ce livre il y a un certain temps.
Oui, il y a deux ans.
Il y a deux ans, et à ce moment-là, le livre faisait 800 pages, et maintenant tu m'as donné la version qui vient de sortir, et le livre fait 105 pages. Que s'est-il passé entre la version de 800 pages et la version de 105 pages ?
Alors, à l'origine, effectivement, la fois que je suis venu ici, je t'ai parlé d'un livre sur lequel je travaillais qui devait faire 800 pages. J'en étais à 400 et j'étais au milieu à peu près. Et en fait, je n'ai pas tenu parole parce que le livre, finalement, fait 8000 pages. Et j'ai découvert par des techniciens d'imprimerie qu'en fait, ce n'était pas possible d'imprimer 1000 pages. Il fallait, le maximum que je pouvais imprimer, c'était 850 pages. Donc je devais retirer 150 pages de ce roman, ce gros roman qui s'appelle « Par loin, l'aventure est infinie ». Et donc j'ai choisi d'extraire de ce roman un passage qui était peut-être un peu trop analytique, un peu trop réflexif, trop philosophique sur le rock, sur la métaphysique du rock. Et donc j'en ai fait un petit bouquin de 105 pages que j'ai extrait, donc qui sort en avant-première avant ce gros roman et avant d'autres livres aussi dans la même collection. Mais donc voilà, et qui traite du rock. Et qui me permettait en fait à la fois d'annoncer ce roman sur un format un peu plus abordable que 1000 pages, et en même temps de pouvoir après sortir un livre qui fera 850 pages, si tout va bien.
Et donc, comme ça s'appelle Métaphysique du rock, ma première question sera simple. Est-ce que le rock est une musique sacrée ?
Alors, c'est effectivement, dès qu'on parle de métaphysique, on va parler de transcendance, et donc on peut être amené à parler effectivement du sacré. Alors, ma thèse, effectivement, est un peu provocatrice, un peu scandaleuse, parce que le rock, a priori, on ne voit pas du tout comme une musique sacrée. On le voit même à l'inverse, à l'opposé, comme musique diabolique, comme musique profane, et qui a été d'ailleurs dénoncée comme musique diabolique en son temps, dans les années 50-60 aux États-Unis. Donc, effectivement, mon propos est un peu provocateur, dans le sens où ce que je soutiens, c'est que c'est une musique qui est effectivement une musique de rébellion, d'insurrection, mais c'est une insurrection spirituelle. Elle est d'essence spirituelle. C'est-à-dire qu'on, même quand on crache au visage de Dieu, c'est que quelque part, on y croit encore un peu. Quand on compose des chansons qui parlent du diable ou qui insultent Dieu, c'est encore une manière de rester dans ce système d'opposition classique entre immanence et transcendance, entre le bien et le mal, entre la matière et l'esprit, entre l'âme et le corps.
Et tu parles d'un musicien qui s'appelle John Frusciante. C'est quelqu'un qui est important pour toi.
Alors effectivement, comme le livre commence sur le rapport aux idoles, et je me devais de me mettre au clair avec moi-même aussi sur mes propres idoles et mon propre fanatisme, parce que c'est un peu ça aussi. Le rock, c'est une musique populaire, entre guillemets, qui sous-entend pas mal de fanatisme et d'hystérie et de gens complètement fous, qui collectionnent tout, qui achètent tous les disques, qui ont des posters, qui sont au courant de tout, de la bio de leur idole. Donc j'estimais que je devais me mettre au clair avec ça, avec moi-même, et donc parler d'une de mes idoles, qui est John Frusciante, qui n'est rien d'autre que le guitariste des Red Hot Chili Peppers, et donc qui est un très grand musicien, mais pas au sens technique du terme, hein, qui a sorti énormément de morceaux avec les Red Hot, mais surtout qui a une grande carrière solo, avec plus de 10 albums solo, même je crois qu'il y a 11 ou 12. Et donc, c'est un musicien fascinant pour moi qui m'a souvent omnubilé, obsédé. Donc, voilà, je devais me mettre au clair par rapport à ça. Donc, je parle de mon rapport à cette idole-là et tout ce que ça apporte, en fait, d'être quand on est une rock star, ce que ça implique, la relation entre le fan et la star. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, de quel ordre est cette relation? C'est ça qui m'a intéressé.
Si on pense par exemple au niveau courant, on peut voir comme image de comment dire, un peu comme une image qui aurait à voir avec un culte, on peut penser les Doors, par exemple, si on pense les Doors et puis tout ce qui est eu autour du chanteur des Doors et lui-même, sa façon de se tenir, l'espèce de contexte dans lequel il travaille, on a effectivement cette idée de travailler sur quelque chose qui dépasse un petit peu la trivialité. Et même tous, hein, même le côté transgressif chez Jerry Lewis. Bon, parce que au niveau zéro, il y a le déhanchement d'Elvis, mais déjà là, oui, il y a quelque chose. Les religions sont diverses, on pourrait avoir des confrontations, et puis il y a une espèce de retour du corps qui est très très marqué après un moment.
Alors,
de,
ce qui est
de
étonnant,
puritanisme.
Ce qui est étonnant, c'est ce que je souligne dans mon livre, c'est qu'en fait, le rock est apparu dans des pays chrétiens, notamment protestants, et qu'on n'a pas eu de rock musulman ou de rock hindouiste ou de rock taoïste. Donc la naissance du rock, dans les pays dans lesquels il émerge, ce sont des pays qui sont fortement protestants, chrétiens ou parfois catholiques. Et donc il y a à voir avec ça, avec là où c'est né. Ça ne surgit pas de nulle part. Donc on a ça, et c'est intéressant, j'ai même cette phrase un peu provocatrice qui consiste à dire qu'on peut être qu'un bon rocker que si on est d'abord un bon chrétien, dans le sens où il faut savoir ce qu'on transgresse, il faut savoir ce qu'on dépasse. Et il y a surtout, plus précisément pour répondre à ta question sur Jim Morrison et sur les danses, il y a quelque chose qui a à voir avec l'incarnation. Tout d'un coup, une idole, qu'est-ce que c'est une idole? C'est pas seulement une belle image qui nous fascine et dont on tombe amoureux et dont on s'éprend. Une idole, c'est surtout quelqu'un qui, pour nous, incarne quelque chose, qui réussit une incarnation, qui a un corps, qui exprime quelque chose qui le dépasse, qui le transcende, qui l'outrepasse. Donc, c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, effectivement, on a, là où tu me disais, tu me posais la question de savoir est-ce que le rock est une musique sacrée, quelque part, cette musique, avant, il y avait une séparation entre la musique sacrée et la musique profane. Et là, on a l'impression que la musique sacrée a un peu disparu au XXe siècle, s'est éclipsée totalement, au profit d'une musique profane, et cette musique profane s'est sacralisée. Et elle a créé des idoles, elle a créé des stars, elle a créé des demi-dieux. Et que ce soit David Bowie, Lou Reed, etc., etc. La liste est très très longue, hein, mais toutes les stars du rock, il y a beaucoup d'étoiles. Mais ce sont des gens qui, d'un coup, sont considérés, sont divinisés, sont adulés comme tels, et rappellent quelque chose de l'incarnation qu'on avait peut-être oublié.
Je vois deux choses. Je discutais il y a 2-3 mois avec une jeune femme et à un moment, elle s'est emportée sur des histoires de concerts, sur le comportement des musiciens à certains endroits, dans certaines villes, comme ils jouent différemment, selon dans quelle ville ils sont, dans quel contexte. Mmh. Et ça m'est revenu après sur ces gens qui n'ont pas vraiment d'engouement, par exemple, de rapport à l'art ou de passion, etc. Et quand il s'agit de musique, ils y mettent la dimension du culte, un petit peu comme les amateurs de football. Là, il y a une dimension cultuelle et grégaire qui ressort, qui est vraiment très très forte, qui est très investie et qui est absolument surprenant parce que brusquement, quelqu'un sort de ses gonds. Et puis, je pensais aussi à un autre aspect, alors qui a à voir avec mon vécu, c'est si on pense à Elvis, c'est l'aspect gospel est très très important parce que il apprend à chanter avec des noirs dans des églises et donc on a, on l'a déjà aussi très fortement marqué sur la génération précédente, c'est-à-dire Sinatra. Toute la génération, ce sont déjà des gens qui chantent une musique américaine qui est très métissée et dans laquelle le jazz est quand même très très présent. Et ils ont une capacité à intégrer à peu près tout dans une espèce de syncrétisme comme ça, qui a beaucoup de tenue. Et ce qui est très frappant, quand j'ai découvert Elvis au cinéma, à l'âge de 16 ans, il passait deux films à la même séance, c'était quand même l'aspect noir de la musique, c'est-à-dire qu'il nous sortait de la chanson francophone, qui était extrêmement prétentieuse, c'était des grands orchestres qui accompagnaient, C'était très lourd. C'était vraiment la moindre chanson d'Edith Piaf prend des proportions symphoniques extrêmement importantes. C'est écrit avec beaucoup de minutie et très peu d'art, en fait. Paradoxalement, c'est quand même très sclérosé au niveau de l'écriture. Ça a peu de goût à la musique. C'est plutôt le contenu qui se met en avant.
D'un coup, effectivement, il y a une forme de brutalité qui arrive, d'évidence, d'art brut, d'art, c'est-à-dire des morceaux qui sont assez, qui sont beaucoup plus rythmés, qui sont moins sophistiqués, comme tu le dis. Et je pense que ça a joué énormément dans cette révélation. Il y avait un côté, d'ailleurs, il y a, je sais qu'à l'époque, quand le rock est arrivé, qu'est-ce qu'on disait ? C'est qu'on disait, voilà, c'est du bruit.
Il y a tout le côté sauvage, le côté l'Afrique profonde qui nous revient d'une façon formidable. Enfin, je ne sais pas, l'histoire du déhanchement d'Elvis est extraordinaire parce que c'est la sensualité, c'est une espèce de sensualité
sexuelle.
Pure.
C'est musique sexuelle, et c'est ce qui lui a été reproché. Mais évidemment que cette dimension-là a tout de suite été perçue par les églises, par les conservateurs, par les politiciens. Cette dimension... musique noire, nègre entre guillemets, parce qu'elle était appelée comme ça, a été très importante et a participé énormément au succès de cette musique. C'est parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a peut-être une musique un peu trop sage, un peu trop polissée, un peu trop comment on pourrait dire conservatrice, liée à un patrimoine, liée à une histoire, à une tradition. Et tout d'un coup arrive cette musique qui est brute, qui est trop rythmée, dont les amateurs de musique disent que c'est du bruit, que c'est de la musique de nègre, que c'est la jungle, ou que c'est des primitifs, voilà. Et c'est marrant, tu vois. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand le jazz est arrivé, les compositeurs de musique classique ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, qu'est-ce que c'est que ce zoo, qu'est-ce que c'est que cette jungle. Bon. Après, le rock est arrivé, les jazzmen ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, qu'est-ce que c'est ce zoo, qu'est-ce que c'est que cette jungle. Après, le hip-hop est arrivé et les rockers ils ont fait mais c'est quoi cette musique de sauvage. Et la techno est arrivée et les rappeurs ils ont fait mais c'est quoi cette musique de robot. Donc c'est ça qui me fascine, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une forme nouvelle qui arrive, il y a toujours les mêmes anathèmes qui reviennent, les mêmes insultes, les mêmes reproches. Grosso modo, c'est pas de la musique, c'est du bruit, ils connaissent rien à l'art, c'est sauvage, c'est immoral, parce que souvent les paroles sont immorales, hein. Ça parle de sexe, ça parle de transgression, ça parle de drogue, ça parle de fête, ça parle de jeunesse. Donc, moi, c'est ça qui me fascine, c'est ça qui est intéressant, de voir que chaque génération transgresse quelque chose, et puis après, elle devient éminemment conservatrice, et elle voit arriver les nouveautés du même œil que leurs aînés.
Si on pense, par exemple, à Otis Redding ou à James Brown, si on pense à des gens de cette dimension, c'est quand même très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de critiquer la variété française dans cette histoire aussi. Parce que si on pense à la génération des yéyés, par exemple, moi j'ai vu Dick Rivers, j'avais 16 ans, donc c'était il y a très très longtemps, on l'entendait pas et c'était vraiment très très mauvais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur manquait ? Il leur manquait cette dimension qu'on a évidemment tout de suite chez James Brown. Il manquait cette dimension où on se rebaigne dans la sensualité. Et qui dit sensuel, qui dit sexe, qui dit sensualité, dit reproduction et dit sacré. Il n'y a pas... Cette dimension, elle est aussi là, parce que toute la répression que le catholicisme va exercer sur la sexualité manifeste aussi son importance. Il est donc évident que le nerf de la guerre, il est là. Mmh. Et si on prend si on prend un type qui n'a fait que des covers et qui est très archétypique de ce qu'on en a fait ici, c'est Johnny Hallyday. Mmh. On n'a pas à un moment où il disparaît dans la transe, la transe lui étrangère. Mmh. Cette dimension qui vient spontanément chez George Clinton, par exemple, dans le funk,
ouais, par Yaman,
Johnny en est totalement dénué. Mmh. Il ne peut qu'essayer de s'appliquer. Mais il n'a pas touché le sacré, il n'a pas été éduqué dans le sacré. Voilà. C'est un fake. C'est quelqu'un qui fait semblant.
Mais il faut savoir que James Brown est un ancien boxeur aussi. Donc physiquement, sur scène, il est dans un combat.
Voilà.
Et ses musiciens derrière, ils jouent, et s'ils font le moindre pas, ils ont une amende. Donc il y a une espèce de tension sur scène qui est incroyable. Effectivement, il a appris à chanter dans les gospels, comme la plupart des musiciens noirs, comme Otis Redding, comme tous ces musiciens des années 50. Ils ont appris à chanter à l'église parce que c'était gratuit. n'y avait pas de cours de chant, il n'y avait pas de conservatoire dans lequel ils pouvaient s'inscrire. Donc il y a cette musique gratuite qui touche au sacré, qui touche au transcendant. Alors après, même si on perd la foi ou on la garde, c'est pas le problème d'ailleurs. Le problème, c'est de garder cette attitude d'un corps qui s'excède, qui se dépasse, qui s'outrepasse et qui tend vers quelque chose qui est au-delà de ses limites. Et c'est pour ça que je dis que le rock reste sacré dans ce sens-là. C'est qu'il y a toujours une transe en danse. Alors c'est un jeu de mots, excusez-moi, oui, mais c'est la transcendance, c'est ça. Et tu as raison complètement avec James Blunt. James Blunt, c'est le premier, il arrive. Il est très rock'n'roll à sa façon. Quand il invente le funk, ni plus ni moins, il l'invente. Hein. Un funk qui est joué encore et qui marche encore, enfin, qui est devenu académique, canonique. Mais il a cette puissance physique incarnée. C'est parce que d'abord, je te l'ai dit, c'est un ancien boxeur. Un ancien enfant de cœur. Alors tu mets un boxeur enfant de cœur qui est passé par la prison, ça donne quelque chose sur scène qui est assez redoutable et qui est magique. Et effectivement, tu as raison. Mais je peux être que d'accord avec toi parce que la variété française, moi, de toute façon, je peux pas l'entendre, j'y arrive pas. Des fois, on se sent la force de tout, mais on a chacun nos limites. Et effectivement, la variété française, c'est très peu incarné, c'est très peu, et puis c'est surtout très opportuniste.
Alors, je pourrais dire que j'ai aimé Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Bachung. J'ai aimé ces gens parce que c'est surtout qu'ils faisaient passer la musique avant les paroles. C'est paradoxal parce que les gens vont entendre, ils vont avoir l'impression de textes relativement sophistiqués. Mais la vérité, c'est que bon, c'est très flagrant chez Higelin, par exemple, mais ça l'est aussi chez Bachung. Et quand il travaillait avec Boris Berkman, Berkman écrivait très bien, mais il écrit derrière la musique, il écrit derrière Bachung. Et donc, à partir du moment où tu fais passer la musique avant les paroles, tu es déjà dans quelque chose qui transcende cette idée un peu figée de la chanson.
Oui, trop écrite, oui. Oui, mais quand tu as eu comme prédécesseur Brel, Brassens, Barbara, pour cette EQDB, ou même Ferré, arrive cette génération, sur l'écriture, ils sont un peu foutus. Ensuite, ça crie beaucoup, ça gueule beaucoup, enfin, c'est très déclamé, c'est même presque surécrit, très poétique. Donc, cette génération qui arrive après prend le contre-pied. Donc, c'est plus aussi bien écrit, parce que tu cites Bergman, mais Bergman, c'est quand même. Ça se veut simple, ça se veut facile
c'est
d'accès.
C'est très compliqué.
Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a assez profond derrière, mais il y a beaucoup de jeux de mots, et dans la forme, c'est simple. Tu écoutes bien les paroles, c'est très simple dans la forme, c'est immédiatement accessible. C'est pour ça que c'est. Mais pour moi, je les classe vraiment dans le rock. Mais après, ça, c'est un débat qui n'est pas forcément intéressant de savoir est-ce que c'est rock, est-ce que c'est variété. Bon, c'est un autre problème. Mais on sent bien qu'effectivement. Mais je pense que tu as raison. C'est peut-être. Ça, j'y ai pas pensé du tout. Pourquoi le rock en France a eu tant de mal à marcher et à s'imposer? Parce que finalement, il y avait très peu de groupes. Il y a eu Téléphone, Trust, Noir Désir. Et voilà, basta. Enfin, après, on pourrait citer plein d'autres groupes. Il y a les Suggs, il y a plein d'autres groupes qui ont marché derrière, les Sloy. Mais si tu veux, c'est quand même, ça paye aussi la même importance qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Enfin, en Angleterre, c'est incomparable. Moi, j'étais à Londres quand j'avais 16 ans. Je regarde leur top 50, entre guillemets. C'était Cure, les Smiths, Suxy and the Banshees, Frankie Goes to Hollywood. En France, on avait Lagaffe, on avait les pires chanteurs français affligeants. Enfin, et donc, voilà, là, tu vois la différence entre la pop et la variété.
Je pense, tu parlais de Ferré, par exemple. C'est dingue, des fois, c'est pas audible à cause de la musique. C'est tellement affect, la prétention de la musique derrière. Il y a des chœurs, il y a des choses vraiment immondes. Mais peu importe. Et donc, tu fais ce petit livre, peu importe ça aussi, c'est pas une question de nombre de pages. Tu t'interroges sur la métaphysique du rock. Et puis, les dernières fois qu'on a eu l'occasion de parler, j'étais aussi impressionné parce que tu as continué à t'intéresser à ces choses et tu connais très bien le rap.
Oui, bah oui, parce que ça, c'est ce qui a remplacé la musique.
Est-ce qu'il y a une différente dimension métaphysique aussi dans le rap? Comment tu interprètes le rap?
Alors, très bonne question. Je me suis posé la question de savoir si j'aurais été capable d'écrire la métaphysique de la techno, la métaphysique du rap. Je pense pas, parce que j'écoute beaucoup de musique, tous les styles, hein, classique, jazz, hip-hop, rock. Mais le rock, c'est mon histoire, c'est ma passion première. Et c'est ce que je connais de mieux, même dans son histoire. Et puis voilà. Et puis j'en ai fait. J'étais batteur de rock, donc je l'ai vécu intimement. Il faut monter sur scène pour savoir ce que c'est. Il faut enregistrer des morceaux pour savoir ce que c'est. Mais pour revenir à ta question sur le rap, je ne pourrais pas parce que c'est pas ma musique. Je la connais bien, j'en écoute énormément, mais je suis pas fasciné par son histoire. Je cherche pas à savoir forcément quels sont les artistes. J'écoute la musique, mais l'artiste derrière, je cherche pas sa bio, je cherche pas à savoir quelle est son enfance et compagnie. Et puis en plus, c'est comme je me sentirais un peu comme un imposteur. Parce que j'ai pas directement participé à l'histoire du rap, à son essor. J'étais pas un fanatique du rap à l'époque où c'est sorti. Donc non, je pense pas que je. Et puis alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qui était transcendant dans la musique rock. Et dans le rap, C'est beaucoup plus compliqué. Donc, je viens de te dire que je pourrais pas écrire cette histoire, donc je vais pas pouvoir te le faire maintenant. Mais dans le rap, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aux États-Unis, le rap, il est soit gangster, donc criminel ou possible, soit religieux. C'est-à-dire, tu vois, Kanye West ou des artistes comme ça, comme Sir, il y a ou Travis Scott. C'est des gens qui font référence, qui font référence explicite à la religion et qui témoignent de leur foi. Et il y a un rap. Ça n'empêche pas que des fois ils aient des penchants et qu'ils échouent et qu'ils sombrent dans le péché, mais ils témoignent leur foi très naturellement. Aux États-Unis, ça passe très bien. En France, c'est pas concevable. Donc s'ils sont entre les deux, donc je pourrais pas. Il faudrait que je réfléchisse là-dessus. Mais c'était pas moi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pourquoi le rock est devenu si important à un moment dans l'histoire du monde. C'est pas l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire du monde. Les Beatles arrivent dans les années 60, ce qui se passe, c'est inouï. Tu parlais de Elvis Presley. Elvis Presley, c'est une révolution aux États-Unis. Mais les Beatles, c'était une révolution mondiale au niveau du son. Enfin, j'ai cité Alain Badiou. Alain Badiou qui dit que quand il y a une nouvelle forme qui arrive, c'est un événement. Et ça balaye toutes les subjectivités. Et donc, ça c'est intéressant. C'est ça qui me fascine. C'est pourquoi tout d'un coup, une musique devient mondiale. Pourquoi une musique qui naît dans un coin, mais ça pourrait être aussi Bob Marley en Jamaïque. Ça pourrait être aussi Cesaria Evora au Cap-Vert. Ça pourrait être Sina Rewen dans le désert en Afrique. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, une musique touche tout le monde? Et qu'est-ce qui fait, alors encore plus pour le rock, c'est ça. Pour le rock, c'est ça. C'est vraiment pourquoi c'est devenu à ce point mondial et pourquoi ça a changé la vie de tant de gens. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le rock peut arrêter une guerre? Est-ce que les chansons révolutionnaires, ça change la vie? Est-ce que le rock peut faire la révolution? Bon, on peut se poser la question, mais il faut savoir qu'on ne peut pas nier le fait que cette musique a changé la vie de millions de personnes. Allons-y. Alors, John, il faut chanter si tu veux bien.
Bon, allons-y pour la pause musicale. I've been insane, well, the time is slow. The Pope don't die. When the Pope is your seat, don't you agree? When you're round, I'm wild, round your thumb. You wanna be numb inside the doesn't show. I've been insane, well, the time is slow. Don't you want sunshine instead of phony lights? All your billboards and lights. Voilà, donc nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman et nous sommes en train d'échanger avec Frédéric Gournay sur son livre qui vient de sortir, Métaphysique du rock, qui est sorti chez l'Irrémissible Édition. Et donc nous venons d'entendre un morceau d'un chanteur qui a beaucoup d'importance pour lui, n'est-ce pas?
Ouais, un guitariste qui a sorti des albums solo qui s'appelle Jeune Frusciante, et le morceau qu'on vient d'entendre c'est I've Been Insane, qui est sorti de son premier album chez American Records, et donc c'est un label qui appartenait à Rick Rubin à l'époque, et il venait de quitter les Red Hot, il avait sombré dans la drogue, il avait quitté les Red Hot en pleine tournée en 1992 alors que le groupe était au sommet de son succès, il rencontrait enfin un succès phénoménal mondial, pour en parler tout à l'heure. Comme je te disais, certains artistes d'un coup deviennent des célébrités mondiales. Et en plein cœur d'une tournée au Japon, ils quittent le groupe et ils sombrent dans la drogue et ils enregistrent cet album dont on vient d'entendre un morceau à ce moment-là.
Et dans ton livre, tu t'en prends à un penseur allemand qui est très connu, qui s'appelle Adorno.
Oui.
Et pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui ?
Pourquoi tu aimes bien Adorno ?
Non, bah alors justement, ça m'intéresse parce que j'ai travaillé, là j'ai fait un autre interview sur le sexe et la musique, et puis les propos d'Adorno sur le jazz étaient revenus, et il y a un vrai enjeu,
oui,
il fait preuve d'un freudisme très primaire.
Oui.
Et il y a une émission sur France Musique à midi qui s'appelle le machin n'est pas que la pizza, je sais pas exactement le titre de l'émission. Et c'est sur le fait qu'il faut que tout le monde devrait écouter de la musique classique. Et je pense souvent à cette histoire d'Adorno, ça m'amuserait de travailler sur ces questions. Alors je voulais savoir ce que toi, comment toi tu interpelles Adorno, pourquoi Adorno et comment.
Alors, Adorno, c'est un peu facile de l'attaquer parce qu'il a commis une grosse erreur. D'abord, c'est un bon esthète et un bon critique d'art et un bon historien de l'art et qui a écrit des choses très belles sur la musique classique et savante. Mais le pauvre a connu une bourde, c'est-à-dire quand le jazz arrive, on en parlait tout à l'heure, le jazz arrive et il trouve que c'est inaudible, que c'est une musique pourrie.
Il parle beaucoup de sexe.
Alors
il le dit clairement,
c'est une musique d'éjaculateur précoce. Voilà, il le dit, la syncope, les saccades, espèce de côté hystérique, c'est la musique de branleur et d'éjaculateur précoce. Et donc ça, c'est intéressant parce que finalement, ça revient à un débat qui est plus vaste que ça. Si tu veux, c'est la distinction entre la musique savante, la musique classique et la musique populaire. Okay, donc ça, c'est un vieux débat qui revient sans cesse. J'en parlerai la semaine prochaine dans une autre émission de radio de David Christoffel qui s'appelle Métaclassique. Je vais discuter avec un grand musicologue québécois et la directrice de recherche du Collège international de philosophie sur cette question-là. Donc je vais pas tout dire parce que je dirai ça la semaine prochaine, mais pour faire vite, en fait Adorno donc se plante sur le jazz, donc tout le monde lui est tombé dessus, c'est facile. Mais moi ce qui m'a le plus dérangé c'est Adorno, c'est pas le fait qu'il se trompe sur le jazz, parce qu'en plus il écoutait du jazz allemand, donc bon, jazz allemand à cette époque-là ça va pas être terrible. Et ensuite on sortait de la guerre, enfin et il y avait cette peur un peu de cette musique américaine qui allait un peu tout envahir, donc il y avait ça chez lui. Donc moi ce que je lui reproche c'est d'être tombé un peu dans une espèce d'idée que en fait la musique populaire est une production économique détenue par certaines personnes qui servent à nourrir leurs besoins de divertissement et qui avilissent les masses et les abrutissent et parce qu'ils sont trop bêtes, parce qu'ils sont pas assez instruits, parce qu'ils sont pas assez intelligents et pas assez sensibles. Donc on va voilà, ils se sont manipulés, c'est un peu une théorie du complot avant l'heure, mais ils sont manipulés par une industrie. En plus, c'est très tendancieux chez Adorno parce que l'industrie du spectacle à l'époque, on dit qu'elle est tenue par les Juifs. L'industrie culturelle américaine est tenue par les Juifs, c'est ce qui est dit, ce qui est prétendu parmi les antisémites notoires. Donc c'est ça qui m'a dérangé, c'est cette idée qu'on retrouve maintenant, dans le sens où la musique populaire finalement c'est de la consommation, c'est un truc qu'on prend comme ça, et ça n'a pas la dignité ontologique, ça n'a pas la dignité de la musique classique ou la musique savante, ou même la dignité du jazz, parce que le jazz entre temps a pris ses galons, il a eu ses titres de noblesse, il est reconnu maintenant comme musique savante, il y a des expos, des musées, voilà, le jazz est sacralisé maintenant, mais... Donc c'est cette idée-là qui me dérangeait énormément, qu'Adorno puisse aller dans ce sens-là en disant voilà, les Américains, ils sont trop idiots, ils écoutent du jazz parce qu'ils sont trop bêtes, ils n'ont pas assez éduqués. Et c'est de la musique de noir, on ne peut pas soupçonner Adorno de racisme, il s'est battu toute sa vie contre le nazisme, et il s'est toujours engagé, et il est juif, mais il y a quand même cette idée, le jazz arrive, dit voilà, c'est quoi cette musique de sauvage, c'est quoi cette musique qui n'est pas de la musique, voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, et alors c'est ça qui est passionnant. C'est un peu le cœur de mon livre, cette idée que d'un coup une nouvelle musique arrive et elle fait exploser toutes les valeurs qui sont en cours. C'est une forme de révolution formelle. A priori, c'est que de la musique. Franchement, la musique c'est pas grand chose à la base. La musique c'est pas grand chose. Ce n'est que de la musique. C'est inoffensif la musique. Et ben, pourtant cette musique elle arrive et elle change tout. C'est-à-dire que les Beatles arrivent et le monde ne sera plus jamais pareil. Les Clash arrivent, les Sex Pistols arrivent et le monde ne sera plus jamais les mêmes. Il y a Tupac, Public Enemy arrive, le monde ne sera plus jamais le même. Après, mais on peut remonter. Moi, c'est ma spécialité, c'est ça, c'est le rock. Et puis, je me connais en hip-hop et un peu en. Mais on pourrait parler du jazz. Quand Dizzy Gillespie arrive, ça change tout. Quand John Coltrane arrive, ça change tout. Et on peut pas revenir en arrière. C'est ça, c'est un peu le mot de Rimbaud. Si vous voulez, qu'est-ce que la modernité ? C'est tenir le pas gagné. On tient le pas, on a gagné un pas, on revient pas en arrière. Et ben c'est ça. Et le rock, d'un coup, il s'est passé quelque chose. Et pour moi, le rock est fondamental dans le sens où, d'abord, c'est une révolution, une des premières grandes révolutions musicales mondiales. parce que c'est déjà mondialisé, le globe est déjà mondialisé, c'est diffusé dans toutes les radios, même en URSS, sous le manteau, se vendaient les disques des Beatles. On pouvait trouver jusqu'en Chine, jusqu'en Indonésie, voilà. Bob Marley, c'est pareil, Bob Marley, c'était comme la voix des pauvres, la voix des oppressés, des pays en voie de développement, comme on les appelait à l'époque. Bob Marley arrive, et c'est quand même juste un mec avec une guitare qui vit dans une île, et d'un coup, sa musique, elle devient mondiale. Ça me fascine que des personnes aussi vulnérables, aussi isolées, faibles, avec juste une guitare, arrivent à changer le monde, entre guillemets. Moi, là, récemment, je sais pas si t'as suivi ça, mais Bruce Springsteen, donc il est tout seul dans les années 60, il compose des chansons dans sa chambre, il va passer une audition dans une maison de disques, et voilà, il enregistre son premier album. Là, il vient de vendre les droits de ses chansons pour 500 millions de dollars. Un demi-milliard de dollars. Tu te rends compte de ce qui s'est passé entre-temps, entre ce petit chanteur dans sa chambre et maintenant le mec qui arrive à vendre son catalogue de droits à 500 millions. Donc voilà, c'est ça qui me fascine. Et moi, je pense que c'est seulement possible si la musique touche quelque chose d'essentiel qui n'a rien à voir avec la production sociale, la production économique ou le folklore. Parce que si on dit la musique, c'est relatif au pays dans lequel on habite, ça dépend de nos goûts, comme pourrait dire Bourdieu, par exemple. Ça dépend de, oui, on est éduqué pour avoir tel goût. C'est un peu ce qu'il dit, lui. Ben, en ce cas-là, on reste tous avec notre folklore. Et d'un coup, il y a une musique qui peut être considérée comme un folklore, comme Tina Rewen, comme Cesaria Evora, comme Bob Marley. Tout d'un coup, cette musique qui est soi-disant un folklore devient une musique mondiale. Elle transcende les genres. C'est ça qui m'intéresse. C'était vraiment ma réflexion dans mon livre.
Et donc, tu parles de l'ontologie du rock. Alors, la première question, c'est quoi l'ontologie d'abord ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
La science de l'être en tant qu'être. Oui, alors c'est un peu pédant, un peu scientifique si on pense aux sciences humaines. Mais l'ontologie du rock, en fait, c'est de s'intéresser sur ce qu'est l'être des choses, indépendamment de leur incarnation qui sont dans l'espace et le temps. Donc c'est exactement ce que je te disais, c'est que en fait tu peux considérer les choses dans leur incarnation dans le monde, mais tu peux te demander aussi ce qu'elle est essentiellement. C'est-à-dire que par exemple pour le cas du rock, on se demande tiens bah le rock c'est quoi, bah il y a tellement de groupes de rock différents, il y a tellement de genres de rock différents, il y a telle histoire du rock, c'est quoi finalement le rock? Non, le rock ça peut être tout et son contraire. Et ça se vérifie. Et donc moi, ma démarche, c'est de me demander ce qu'est l'essence du rock et l'essence des choses, indépendamment de leur production dans le monde. Et donc là,
c'est le sujet de ton livre, alors.
Voilà. Et donc si tu veux, moi ce dont je me suis aperçu en travaillant, en réfléchissant bien sur le rock, sur ma passion première, c'est très quelque chose à la fois de très philosophique, mais quelque chose de très intime, de très personnel, de très corporel. Donc il faut toujours partir du corps, il faut partir de l'émotion corporelle, du sentiment, de ce qui nous bouleverse. Et après, on essaie de réfléchir là-dessus et de savoir ce que ça veut dire. Et en travaillant sur ça, justement, je me suis rendu compte que le rock, je me dis, c'est quoi la chose commune à tous ces groupes de rock? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Alors au début, on a dit, oui, alors le rock, c'est la guitare électrique. Et je trouvais ça absurde, je trouvais ça délirant, parce que les deux plus grands rockers de la Terre qui sont les premiers, c'est Jerry Lee Lewis et Little Richard. Ils jouaient pas de guitare électrique. Je suis désolé de le rappeler, ils jouaient du piano. Et en fait, ils venaient d'un piano qui était, c'était moitié gospel et moitié boogie-woogie. Boogie-woogie, on l'oublie souvent, mais c'est très important dans l'influence rock. Donc, la guitare électrique, et puis moi, les rockers que j'aimais, ils jouaient pas de guitare électrique, Suicide, tu vois, Alan Vega, le groupe de Alan Vega, Suicide, il n'y avait pas de guitare électrique. Tu prends Johnny Cash, il n'y a pas de guitare électrique. Donc, tu vois, ça ne collait pas. Alors ensuite, on m'a dit, oui, alors, on lit, hein, le rock, c'est la musique de la rébellion, de l'insurrection, c'est lié aux années 50-60, voilà, c'est un truc de gauche, d'extrême gauche, voilà, c'est la révolte. Et là, je découvre dans le rock, il y a plein de rockers qui sont de droite. Enfin, et qui sont très conservateurs, limite facho, quoi. Donc, et qui sont pourtant, hélas, des bons rockers. Donc, tu as Elvis Presley, le premier, qui était très à droite, qui a soutenu Nixon à mort, qui a renié les Beatles en disant, ouais, ils se droguent,
Donc, Elvis Presley, par exemple, était antisémite.
Ouais, et puis, mais moi, j'ai jamais vu jouer avec un musicien noir. Je l'ai jamais vu en photo avec un noir. Donc, il y a ça aussi. Il y a plein de rockers de droite, quoi. Enfin, on en voit plein dans l'histoire. Il y a, même Bob Dylan s'est converti au catholicisme, il est devenu un peu réac. Et puis, je parle limite Motorhead, tu vois, Motorhead. Bon, et c'était un bon réac aussi. Et puis, tu avais, Black Francis des Pixies. Tu as aussi, il y avait 50% des Ramones qui soutenaient Bush, père et fils, qui étaient pour les deux guerres en Irak. Tu vois, enfin,
oui, et puis t'avais, c'est des punks,
ouais,
ça
d'accord,
va.
Mais voilà, mais très bien, mais il y avait Eagles of Death Metal,
mais c'est si le hard rock, que ça soit des fachos, pour moi c'est évident parce que je trouve que c'est déjà un instrument de torture.
Une musique de facho. Qui a servi pendant la guerre du Golfe à torturer effectivement.
Ouais.
Des Irakiens, et qui a été mis, la musique a été mise sur le front, exactement comme dans le film de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Tu vois la scène avec, où le général fait jouer du Wagner avant d'envahir les. De balancer du napalm. Une scène grandiose. Bah, les Américains ont fait pareil avec du rock. Ils ont été en Irak, ils ont balancé du rock, ils attaquaient à coups de rock, et après, ils torturaient. Ils torturaient les soldats, leurs prisonniers irakiens avec, en leur passant du rock à fond. Et à un moment, il y a un mec qui a mis du Michael Jackson et ils ont arrêté tout de suite parce que les Irakiens adoraient Michael Jackson. Bon, ça, c'est une petite boutade. Mais si tu veux, donc pour revenir à ce que tu disais, non, le rock, ça peut être aussi, hélas, la musique de gens de droite. Donc il n'y a pas à s'en choquer, l'art n'est ni de droite ni de gauche, ça serait trop simple. Il suffirait d'être de gauche et de prendre une guitare et ça y est, on est bon. Et on touche l'art. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je découvre que le rock, c'est pas la guitare, c'est pas la musique de l'insurrection. Donc, alors c'est quoi? Alors, c'est tout, dans ce sens-là, je pense que ça ne se limite pas à son contexte. Si tu veux comprendre le rock, tu veux découvrir un peu ce que c'est le rock, c'est pas en invoquant des causes sociales, psychosociales, genre l'adolescence américaine qui arrive, qui a un pouvoir d'achat, qui peut consommer du CD, du 45 tours. C'est pas non plus l'arrivée d'un instrument, l'électrification de la musique, parce que ça, je l'entends beaucoup, beaucoup de penseurs ont dit, voilà, c'est la musique qui devient électrique, donc ça fait du rock. Non, le rock, c'est du piano, essentiellement la base, et puis il y a plein de rockers qui font pas de guitare électrique. Donc il faut chercher plus profond, et savoir, pour moi, si tu veux, le rock, c'est plus que ça, c'est quelque chose qui relève d'un état d'esprit, presque d'un état d'âme. Si tu veux.
Et tu veux parler Daniel Darc, par exemple, parce que comme l'émission avance et que je pense que tu l'as croisé.
Oui, j'ai eu la chance de le connaître, le privilège de l'avoir
lui
rencontré.
Lui a avoué une certaine spiritualité, il la mettait en avant.
Tout à fait, oui, tout à fait. J'en parle dans mon livre, il disait « Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû taire une parole qui m'a sauvé », en parlant du christianisme. Bon, lui était protestant. J'ai eu la chance de le rencontrer, on fréquentait le même bar. Et puis surtout, il me faisait l'honneur de m'appeler mon frère. Et effectivement, on a pas mal discuté là-dessus. Mais comment dire, lui et moi, on détestait le rock chrétien. Il faut savoir, il y a le rock chrétien, c'est un truc qui existe. Hein. Les Américains font beaucoup ça, un peu les Allemands. Donc c'est des gens très croyants qui chantent dans les églises, qui chantent dans les kermesses et tout, qui font du rock en chantant des psaumes. Et pour lui et moi, c'était totalement inaudible. C'est de la musique d'enfant de cœur avec une guitare électrique. Avec une guitare électrique, c'est un peu angoissant. Enfin, il y a quelque chose de malsain. Et donc là, j'en parle aussi de Johnny Cash, qui était une grande idole de Daniel Darc. Je parle de plein de gens comme ça, si tu veux. C'est des gens qui cherchent à atteindre Dieu, mais ils sont passés d'abord en enfer. Ils sont passés par les enfers d'abord. C'est pas des gens qui sont un peu dans le purgatoire et qui essayent de trouver la lumière. Non, c'est des gens qui sont descendus très 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 bas. Il se trouve que souvent, c'est la drogue, pour Johnny Cash comme pour Daniel Darc, mais c'est un désespoir spirituel total. Donc, c'est des gens qui touchent le fond et qui sont passés par les enfers, qui ont cru mourir et qui ont été sauvés, en tout cas, qui s'adressent à Dieu depuis les enfers. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où c'est complexe. Parce que sinon, si c'est, comme je dis, la musique d'enfant de cœur, bon, ben, ça va convertir que ceux qui sont déjà convaincus. Donc, si tu veux aller chercher les gens, c'est un peu comme Jésus, c'est un peu comme Dante, c'est un peu comme Rimbaud, une saison en enfer. C'est un peu comme Ulysse qui descend aux enfers. Ils sont nombreux à être descendus aux enfers. Peu en sont revenus, mais il y en a qui sont revenus.
On peut prendre John Coltrane qui finit avec une musique totalement spirituelle.
Oui,
et
Love
quand
Supreme.
Il se désintoxique, sa mère et sa copine sont à genoux dans la cuisine. Et c'est... une désintox dure, donc c'est 48 heures sans rien toucher, enfermé dans une pièce,
ouais.
Avec des gens qui prient dans la cuisine. Bon, c'est plus facile quand on pense à des Américains. Pour les Français ont comme particularité d'être des athées militants. Donc on est dans un contexte assez spécial. Et je pensais juste au niveau anecdotique, le formidable film sur Chuck Berry qui s'appelle I Rock'n'Roll,
ouais,
met en avant le pianiste.
Voilà,
la démonstration, c'est que c'est le boogie-woogie du pianiste qui fait Chuck Berry.
Mais bien sûr,
Chuck Berry.
John Lennon disait de lui, Jerry Lewis n'incarne pas le rock'n'roll. Il est le rock'n'roll.
Ah, je suis d'accord.
Il est. Donc, voilà, juste pour dire, en fait, parce que souvent, donc, j'ai beaucoup étudié, j'ai été chercher quand même, je dis, je ne suis pas le premier à écrire sur le rock, je ne suis pas le premier à chercher l'essence du rock. Je vais lire les philosophes, je vais voir les philosophes contemporains. Et tous, ils le réduisent soit à une production sociale ou économique, ou à une histoire de la musique même. Oui, alors c'est normal, étant donné qu'il y avait la country, étant donné qu'il y avait le rhythm and blues, fallait bien que ça se rencontre, fallait bien que quelqu'un fasse la synthèse, c'était logique, c'est dans l'histoire naturelle de l'évolution de la musique, voilà, fallait bien que ça arrive, c'est Elvis Presley, bon. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que pourquoi le rock'n'roll est devenu universel si c'est la musique d'adolescents qui écoutaient des radios et qui pouvaient acheter des 45 tours. En country, c'était pareil. La country, c'était des adolescents qui pouvaient acheter des 45 tours et qui écoutaient la radio. La country n'est jamais devenue universelle. Moi, j'aime beaucoup. J'ai découvert la country récemment. Il y a des artistes faramineux en country. C'est longtemps, je pensais que c'était une musique nulle, tu vois, de plouc, de redneck américain sudiste raciste. Et j'étais complètement idiot parce qu'en fait, il y a des pépites incroyables. Johnny Cash m'a permis de découvrir la country. Et donc juste pour te dire, j'ai perdu un peu mon fil, mais donc voilà, ça se résume pas. Voilà, la country n'est jamais devenue une musique mondiale. Dieu merci. Mais ma thèse fondamentale, si tu veux, on peut parler de thèse. Enfin, c'est un terme un peu pédant, mais si tu veux, c'est que l'histoire de la musique n'explique pas la musique. Et que le contexte psychosocial n'explique rien. C'est toujours des justifications a posteriori. C'est-à-dire, si tu veux réfléchir, je m'adresse à toi parce que tu es un historien de l'art, si tu veux réfléchir sur l'histoire de l'art, qu'est-ce que l'histoire de l'art ? Tu veux te dire, de quoi l'histoire est-elle le récit ? Si l'histoire est le récit de quelque chose, ça veut dire que c'est l'histoire et l'histoire de l'histoire, ou le récit est le récit du récit, ça ne veut rien dire. Donc il faut partir dans le sens opposé et se dire, voilà, à un moment, il y a des actes de création irréductibles, c'est eux qui font date, c'est eux qui marquent le temps, c'est eux qui font l'histoire, et c'est grâce à eux qu'on peut, après coup, rétrospectivement, construire l'histoire et le récit historique. Mais sans eux, sans moment souvent irréductible, c'est-à-dire qu'on a beau montrer toutes les causes, tout le contexte, jamais ça explique pourquoi d'un coup Elvis advient. On ne peut pas résumer ça à un truc de deep ou de classe sociale ou de rencontre entre société ou civilisation. Non, voilà, les Beatles, c'est pareil. Tu peux dire, voilà, John Lennon a perdu sa maman très tôt, Paul McCartney a perdu sa maman très tôt, ils viennent d'un milieu ouvrier, ils ont découvert le rock'n'roll grâce aux radios allemandes. Non, ça ne suffit pas à expliquer ce que sont les Beatles. Donc là, il y a la création, il y a toujours quelque chose de libre, d'absolument libre, d'irréductible, qui fait date et qui permet le récit historique. Et moi, donc, ce que je pense profondément et ce que je développe dans mon livre, c'est cette idée que le rock arrive là et c'est une insurrection spirituelle, c'est une rébellion divine, et c'est en cela que c'est la dernière musique sacrée. Parce qu'après le rock, il n'y aura plus de musique sacrée. Après, effectivement, on passe dans le rap, ça sera du gangsta rap ou de la musique d'enfant de cœur, mais ce ne sera pas ce dont je parle. Et la techno est très... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transe, quelque chose de du culte, tu as raison, mais si tu veux, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'identité, il n'y a même pas de culte de la personnalité. En techno, il n'y a pas de star, enfin, il y en a quelques-unes, mais moi j'ai connu le début de la techno, j'étais dans la rave, on jouait, on dansait dos au DJ. Et le DJ se cachait, ils ont tous porté des masques ou des pseudos. Les Daft Punk étaient les derniers à mettre un casque pour pas qu'on voit leur tête, mais tu vois, il n'y avait rien d'idolâtre dans la techno. Donc voilà, c'est ça pour moi la musique. Le rock, c'est la dernière musique sacrée. On va peut-être écouter un dernier morceau de rock.
D'accord, alors on écoute un morceau.
Et après, je te parle de ce morceau. Screaming Blue Messiah, Twin Cadillac, Valentine. Strong love is what we got. Strong love is what we got, and when it's hot, it's hot. Well, you could be driving two Cadillacs at the same time. And one's going 45, and one's going 99. Get your foot on the floor, feel like killing time. What do you do? Still, I'm getting a car. I'm gonna drive out to the edge of town now. Just to watch the sun go down. Just to watch the sun go down. The sun is big. Big sun. Big sun. Big white sun. And sun looks big, and you feel small. You wanted to be
feel about 10 feet tall. I don't feel anything at all. Strong love is what we got. Strong love is what we got. When it's hot, it's hot.
Donc voilà, c'était Twin Cadillac Valentine de Screaming Blue Messiah, un groupe qui est passé à côté du succès, que très peu de gens connaissent. C'est un groupe très important, fondamental. Écoute, c'est marrant parce que c'est un groupe qui était obsédé par les flingues, les bagnoles, la Bible, un peu comme Eagle et Death Metal. Et donc, c'est juste voilà, pour finir, juste pour rappeler qu'en fait, tous ces groupes sont quand même, peuvent difficilement faire l'économie de leur héritage et de leur culture spirituelle, et que même dans leur révolte et leur révolution, ils sont encore, par rapport à ça, ils sont encore dedans. Voilà.
Et donc, on arrête là, alors ? C'est bon pour toi ?
C'est bon.
Et donc, je voudrais remercier les techniciens qui étaient derrière la vitre, Enrico Maestro Giovanni et Axel Aubry. Et nous allons écouter, donc nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Nous avons parlé du livre de Frédéric Gournay, Métaphysique du rock, qui vient de paraître chez l'Irrémissible Édition. Et maintenant nous allons écouter le petit sujet sur l'exposition d'Arnaud Baumann.
À l'occasion de l'exposition et de la sortie de son très beau livre « Fête au Palace, superbe cadeau Noël », nous sommes allés dans le 16e arrondissement, au mythique studio Harcourt, interviewer le photographe Arnaud Baumann et la commissaire de l'événement Agnès Grégoire.
Écoute Agnès, vas-y, tu le diras mieux que moi.
Je suis Agnès Grégoire. Et je suis le commissaire de l'exposition de la galerie du studio Harcourt. Et donc, j'ai fait une première exposition, parce qu'en fait, c'est une expérience assez récente. Il se trouve qu'au vernissage, j'ai invité un photographe dont j'aime énormément le travail, qui s'appelle Arnaud Baumann. Quand il m'a parlé de ce projet d'exposer le palace chez Harcourt, j'ai complètement adhéré. J'en ai parlé au propriétaire du magazine photo et du studio Harcourt, qui est Francis Dagnan, qui m'a immédiatement donné son adhésion. Harcourt est un lieu d'exposition, ce qui n'est pas extrêmement connu. Donc il y a le studio Harcourt, qui a une galerie, qui est animée par une femme qui s'appelle Catherine Renard. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, on va faire un événement. Il y a une exposition, un livre.
Effectivement, c'est bien comme ça que ça s'est passé, je confirme. J'étais sur le point de faire un livre dont je rêvais depuis 10 ans, sur le palace. Au palace, je ne sais pas si je peux dire que j'avais conscience de ce que je faisais. J'étais jeune photographe. J'avais une volonté, c'était de faire des photos que personne ne faisait. Ça, c'était mon challenge. Ça, c'est de Bacher, l'amant de Yves Saint-Laurent, qui est complètement déguisé avec un bustier faux sein où il y a marqué Sophia, hommage, science-fiction. Et il est entouré de deux flics dont un le tient par une chaîne. Tu vois, on voit cette photo-là qui n'est pas dans le livre. Il a le regard un peu vaseux de quelqu'un qui a pu prendre quelques substances.
Ah oui, il a l'air bien raide. Oui.
Donc je passe les photos. Bon, là, il y a ces deux jeunes banlieusards, certainement. Ouais. Et là, c'est là où on voit la mixité sociale. C'est-à-dire que c'est des gamins qui se sont... L'un déguisé en cow-boy, il a un cigare, et l'autre avec un petit calot, une veste en cuir. On sent que ce sont des gens qui qui ont fait, juste fait un effort de s'habiller de manière originale, mais pas plus que ça. Enfin, c'est... Alors là, on a une photo qui est assez remarquable et rare, c'est que c'est une bande de transgenres qui sont en train de s'éclater, ils rigolent. Il y a même une photo où on voit les jambes écartées, on voit qu'elle est opérée. C'est vraiment une vue très, très crue.
En fait, pour ces gens-là, le palace était un lieu indispensable.
Exactement, c'est un espace de liberté qu'ils ne pouvaient pas forcément trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se montrer tels qu'ils étaient sans craindre de se faire casser la gueule, par exemple. Mmh. Ce qui pouvait arriver déjà à l'époque dans la rue, certainement. Je photographiais pas volontiers les stars.
Ouais.
C'était pas mon sujet d'intérêt. Et puis j'y avais pas forcément accès d'ailleurs. Je préférais photographier des gens ordinaires ou des gens déguisés et surtout l'ambiance.
Tu payais ton entrée ?
Ah non, j'ai jamais payé. Je suis allé à chaque fois avec une invitation.
Alors lui, justement. Lui, qui c'est cette créature ?
Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est habillé d'une manière très étrange. Il est avec un bustier coloré en jaune et bleu. Il porte une sorte de...
Il est très animal.
Oui, une sorte de pelage.
Plumage.
Moi, je verrais ça plutôt comme une peau d'ours, mais l'ours est jaune canari. Et sur son visage, il y a un maquillage extrêmement puissant, bleu, blanc, rouge. On pourrait voir ce genre de personnage dans des stades de foot.
De foot, exactement. Voilà. Ouais.
Au pied, il a des escarpins avec
talons
très hauts, des paillettes sur le flanc de la semelle, semelle compensée. Et on voit... Il porte probablement des collants parce qu'on voit c'est très, 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 très velu, très poilu. Ah oui. Et les poils font comme une forme de rivière sur ses jambes.
Et il est dans son délire, il est tout seul.
Il a une cigarette à la main.
Fait une pause.
On ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il danse. Il a la tête baissée vers le sol. Et derrière lui, il y a ce mur de néon qui faisait partie d'un des décors du palace et qui fait une lumière. Insensé.
Très belle photo.
C'est une photo, moi je l'aime beaucoup cette photo. T'imagines, c'était vraiment, alors, je sais pas, peut-être qu'il louait des costumes, enfin ce costume, fallait le trouver. Là par exemple, ça c'est une photo intéressante, c'est Monsieur Pipi. Je le sais depuis que j'ai fait ce livre parce que j'ai fait une interview de Monsieur Pipi. Il n'y avait pas de Madame Pipi, c'était un homme. Donc c'était quelqu'un qui s'occupait des toilettes et qui a reçu à la fois le monde du palace dans toute sa splendeur.
Tout le monde est passé devant lui.
Bah, les gens qui voulaient se droguer un peu plus discrètement allaient aux toilettes. Les gens qui voulaient baiser un peu rapidement allaient aux toilettes. Les gens qui se confiaient allaient aux toilettes. Et lui, il a recueilli cette histoire, il l'a vécu, et quand je l'ai interviewé, il m'a dit c'est les plus belles années de ma vie. Et maintenant, aujourd'hui, il a 80 ans, et là, il est habillé en collant blanc, le sexe un peu moulé dans une coque, et il porte.
Il est resplendissant.
D'abord, il est maquillé tout de blanc, le visage, très très beau maquillage, très professionnel, et il a une sorte de corolle de plumes. Qui dépasse largement sa tête, qui entoure tout. C'est sublime, son costume est sublime. Il a des boucles d'oreilles qui doivent peser un kilo, qui sont faites de pierres, de pacotille sans doute. Il regarde dans ma direction, mais moi je vois même pas son regard quand je photographie. C'est le coup de flash qui révèle son regard, mais comme je suis en pose lente, il y a l'arrière-plan avec la lumière. des néons qui vient faire comme un halo, comme si c'était dans le brouillard. C'est très beau.
Ouais, il a un côté apparition.
Voilà, une sorte d'apparition.
Et donc, nous sommes sur Allegre FM 93.1. Nous venons de passer une heure extrêmement vivante. Je pense que la musique est la chose la plus importante dans la vie. Franchement, sans musique, je serais mort. Et donc, nous avons eu un petit sujet sur Arnaud Baumann, une exposition. Je vous mettrai toutes les références sur le site. Et nous allons, après le générique de fin de l'émission, balancer sur Cause Commune, car comme vous le savez, tous les midis à 12h, donc Allegre FM cesse ses diffusions, sauf sur le DAT. Et c'est Cause Commune qui prend le relais. À bientôt, à la semaine prochaine. C'était un vrai plaisir de parler avec vous et merci aux techniciens.